Bonjour, bienvenue à Voix de Service Magazine, édition du 21 juin 2018.
En été.
Eh oui, l'été est arrivé à 6h07 ce matin. Mm-hmm. Bon, c'est un peu frais, mais ça va se réchauffer, c'est sûr. Oui.
Ça va se réchauffer pendant l'été.
Oui, et surtout en studio,
oui. Hein,
puisqu'aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale.
Ouais.
Alors, Aïcha.
Bonjour, Guita,
bienvenue. Alors, c'est une bénévole d'un jour,
oui.
Mais toujours, je suis en compagnie de Marie Lalande.
Bonjour.
Et
Yvan Deslauriers.
Oui.
Nous, on est des bénévoles de toujours.
De toujours, c'est ça. Et j'ai oublié de dire, il sera à l'animation. Et bien sûr, Mathieu Tessier, en régie, choix musical et chef d'orchestre.
Oh, vous êtes bien aimable.
Bravo, bravo. Ah,
voilà. Alors, chers collaborateurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Marie?
Moi, je vous parle d'une enquête qui a été faite sur l'utilisation pédagogique des technologies. Alors, entre différentes générations,
Alors,
je vous parle des résultats de cette enquête-là. Et dans un deuxième temps, à la deuxième partie d'émission, je vous lirai un texte d'un enseignant qui est un hommage aux jeunes d'aujourd'hui.
Ah, ce sera différent de peut-être le discours plus fréquent que l'on entend.
Complètement, sûrement. Rafraîchissant, plein d'espoir, puis c'est la dernière semaine des classes.
Oui.
Alors, pour finir...
En beauté.
En beauté, ouais, voilà.
Voilà. Alors, Aïcha, tu nous parleras de quoi?
Donc, je vais vous parler aujourd'hui du Yeti, le mystère qui se cache derrière le Yeti.
Ouh. Ah, superbe!
Oh, je pensais qu'il était pas vrai, lui.
Ah!
On verra.
Ah, on voilà.
Alors, Yvan?
Ben moi, c'est le temps des bulletins, fait que je vais vous parler d'un bulletin.
Oh,
mais
oui.
C'est le bulletin de participation, puis je suis pas sûr qu'on va passer.
Mm.
Puis, en deuxième intervention, je vous parle d'une dame qui est à la retraite,
oui.
Puis qui a décidé de se mettre à la boxe.
Oui, assez intriguant.
Oui, hein?
Oui, 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 tout à fait. Elle a un petit gabarit en plus, alors c'est assez intriguant.
Oui. Et toi, Monique?
Eh bien, moi, de mon côté, je vous lirai un article sur le leadership, mais en fait, ce que dit la recherche par rapport au leadership. Alors, c'est parti! Alors, Yvan... Nos piètres résultats, peut-être.
Oh oui, vraiment piètre. On coule.
On n'obtient pas la note de passage.
Ça va vraiment mal.
Ça va vraiment mal.
Alors, bulletin 2018 de participation. Vous savez, probablement à la télévision, surtout à la radio, des fois, on entend de la publicité de participation qui nous encourage à bouger. Alors, ils ont mesuré si on bougeait, puis il y a de l'ouvrage. Note de D+ pour l'activité physique. C'est sous la plume de Marie Allard dans la presse du 19 juin 2018. Il n'y a pas de quoi être fier. Le bulletin 2018 de participation rendu public mardi dernier attribue aux enfants et adolescents canadiens la note alarmante de D+ pour l'ensemble de l'activité physique. Je sais pas, D+, je pense qu'on passe, puis c'est juste.
On passe, c'est juste.
Je regarde l'enseignante en face de moi.
E étant généralement E pour échec.
Échec, hein? Oui. Seulement 35%, c'est à peine un peu plus qu'un tiers, des jeunes de 5 à 17 ans satisfont au niveau recommandé d'activité physique, alors que la recherche démontre l'importance de bouger pour avoir un cerveau en santé. Il n'y a pas eu d'amélioration, ou presque, depuis le dernier bulletin en 2016, regrette Pierre Morin, directeur des opérations de l'organisme à but non lucratif Participation au Québec. Pour la première fois, un énoncé d'experts qui stipule que tous les enfants devraient être physiquement actifs de façon régulière pour améliorer leur processus cognitif, leur fonction cérébrale et leur santé mentale accompagne le bulletin. Les enfants qui bougent ont plus de longues périodes de concentration que ceux qui sont moins actifs. Souligne Participation. Cette corrélation s'applique à tous, y compris à ceux qui présentent un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble du spectre de l'autisme.
Donc, ils bougent plus et ils se concentrent plus longtemps.
Ça leur permet de se concentrer plus longtemps. Alors, les faits saillants du bulletin. Là, mettez-vous dans la peau des parents qui reçoivent le bulletin de votre enfant. Mouvement sur 24 heures. La note, c'est F. en anglais, fail.
C'est un E, mais en fait, c'est sans participation.
F à l'université.
C'est E pire. À peine 15 % des enfants et adolescents occupent bien les 24 heures dont ils disposent chaque jour. Autrement dit, ils bougent assez, ils dorment assez et ne regardent pas trop les écrans, décrypte Pierre Morin. Chez les tout-petits de 3 à 4 ans, cette portion baisse à 13
%. Oh mon Dieu! Ça fait peur, hein?
Le temps d'écran, un D, ça veut dire qu'on passe juste. L'un des gobe-temps qui nuisent aux enfants, ce sont les écrans. Les enfants de 5 à 11 ans qui passent 2,3 heures de temps de loisirs, excluant les heures de classe, par jour devant un écran, tandis que les ados de 12 à 17 ans y consacrent 4,1 heures par jour. C'est trop, évidemment. Le maximum, c'est de 2 heures qui est recommandé, rappelle Pierre Morin. Chez les adolescents, il n'y a aucun respect de ça. Ben, en général, il n'y a aucun respect, beaucoup, là, mais en tout cas. Sport organisé, B.
Ah, bon.
Bonne nouvelle.
Ça s'améliore.
Oui, il y a une matière qu'on n'est pas pire. 77 % des jeunes, donc le 3/4 des jeunes de 5 à 19 ans, sont inscrits à du sport ou à des activités physiques organisées.
Donc, on a besoin de l'émulation de d'autres.
Oui, on a besoin d'un apport de nos pairs. Ils font, PAIR, ils font de la natation, de la danse ou du badminton 1 ou 2 heures par semaine. C'est bien, mais nettement insuffisant. Il faut bouger tous les jours, souligne Pierre Morin. Il faut inclure l'activité physique dans notre quotidien, sinon on ne bouge pas assez. Il faut aussi que les parents donnent l'exemple aux enfants. Selon les directives canadiennes, les enfants de 5 à 17 ans doivent faire au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour. Transport inactif. Moi, je pensais que c'était transport actif, mais dans l'article, c'est écrit inactif. D moins. Une façon futée de bouger, c'est par l'entremise du transport actif à pied, à trottinette, en planche à roulette ou à vélo, vers la garderie, l'école ou le camp de jour. D'ailleurs, en s'en venant ici, on a vu une petite famille, une dame avec ses 2 enfants qui étaient à vélo. Or, seuls 21 % des jeunes de 5 à 19 ans utilisent habituellement des modes de transport actifs. Est-ce que nous conduisons nos enfants vers une mauvaise santé? Demande Pierre Morin. Oui. On utilise maintenant l'auto pour aller reconduire les enfants à l'école. Il y a beaucoup de minutes d'activité physique qui pouvaient se faire à ce moment-là et qui ne se font plus. Mm-hmm. Jeux et loisirs actifs, D. Un cinquième, 20 % des enfants de 5 à 11 ans consacrent au moins 2 heures par jour à faire de l'activité physique non organisée. Des jeux spontanés au parc, dans la ruelle ou dans la cour de récréation, qui était le quotidien des enfants il n'y a pas si longtemps.
Et ce qui est le plus recommandé, en fait.
Oui, c'est ça. Puis on les laisse tranquilles, puis ils s'arrangent. Ça veut dire, par exemple, jouer au hockey dans la rue, illustre Pierre Morin. J'en profite pour féliciter toutes les villes qui le permettent. C'est super, parce qu'il y a des villes qui ne le permettent pas. Hein. Mm-hmm. Ça veut aussi dire de laisser son enfant de 7 ou 8 ans aller au parc, alors qu'aujourd'hui, les gens ont des craintes. Littératie physique D+. Puis là, je regarde ma maîtresse en face. Littératie physique.
Elle va nous parler de littératie numérique, mais là, on est dans le physique.
Oui. Une maigre part de 35 %, à peine un peu plus qu'un tiers, des jeunes de 8 à 12 ans atteint le niveau minimal recommandé en matière de littératie physique. Puis là, je vois vos cerveaux qui disent « C'est quoi ça? » Qu'est-ce que ce nouveau concept? Savoir courir, lancer et attraper un ballon, se mouvoir dans l'espace, faire des feintes, etc.
Toutes les habiletés
servent à... Bref, maîtriser la base des sports. C'est le fait qu'un enfant développe tout ce qu'il faut, autant sur le plan physique que sur le plan de la motivation, pour qu'il puisse bouger et qu'il ait le goût de bouger pour le reste de sa vie, décrit Pierre Morin. Sommeil, B+.
Ah bon, on aime dormir, c'est bon.
Note encourageante pour la fin. Environ les 3/4 des enfants et jeunes Canadiens dorment suffisamment. Je peux dire, chez nous, dorment même plus que suffisamment.
Très d'accord, hein?
Oui, c'est ça. Chez les tout-petits de 3-4 ans, ce taux grimpe à 84 %. Ça, c'est parce que les parents, ils veulent avoir un peu de temps libre. Ça s'est amélioré par rapport au passé, note Pierre Morin. Il y a d'autres notes dans le bulletin de l'activité physique de participation que je ne vous lirai pas, mais vous pouvez vous référer à cet article dans la presse du 19 juin, sous la plume de Marie Allard, le bulletin 2018 de participation. Allez donc jouer dehors.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, Aïcha, tu nous parles du Yéti. Oui. Je pense que tu nous révèles des choses vraiment intéressantes.
Yéti vrai ou Yéti pas vrai?
C'est ça, exactement.
Telle est la question.
Oui.
Telle est la question.
Donc, je vais vous lire un texte ici sur la plume d'Émilie Rocher pour une revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018. Et l'article s'intitule « Qui se cache derrière le Yéti? » Le Yéti existe-t-il? Hergé a-t-il tout inventé? Depuis 70 ans, les témoignages s'accumulent pourtant, attestant que de sortes de primates géants se cacheraient dans les montagnes de l'Himalaya. Mieux, des échantillons pieux, estampillés, Yeti, abominable homme des neiges, Bigfoot, Sasquatch ou encore Mijiur font le bonheur de les collections privées et des musées de zoologie, tout à fait respectables. Il était temps que la science s'en mêle. Toutefois, la cryptozoologie, cette science des animaux fabuleux, fait surtout sourire des animaux fabuleux. Fait surtout sourire dans les communautés scientifiques. Spécialiste de la communauté génétique humaine et prestigieuse de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, le Britannique Brian Sykes n'a pourtant pas craint de braver le ridicule. Il faut dire que sa carrière est faite, sa renommée mondiale et son professionnalisme reconnu. Il fut notamment le premier à extraire de l'ADN d'anciens os. Et il restera comme le premier à avoir remonté la piste du Yéti via la publication en 2011, de son analyse génétique d'échantillons de poils attribués au Yéti, au Bigfoot et à d'autres primates anormaux. De fait, ces échantillons étant seul indice matériel, eux seuls détiennent la clé du mythe. Pour en obtenir, le professeur a donc fait appel aux nombreux musées et collectionneurs privés qui, à travers le monde, se targuent de posséder des touffes du Yéti ou du Bigfoot. Parmi les échantillons récoltés, 57 ont été sélectionnés d'après leur description, leur provenance et leur histoire. S'en est suivie la partie proprement scientifique de l'étude. Analyse micro et macroscopique et examen par fluorescente infrarouge ont permis, dans un premier temps, d'écarter tout ce qui n'est pas de poils, mais de simples végétaux ou même de fibres de verre. Tant pis pour les musées. Les 37 échantillons restants ont alors été soumis à l'analyse génétique. Après avoir été nettoyés et incubés, leur ADN a été extrait selon le protocole mis au point par Brian Sykes. En ligne de mire, l'ADN, mitochondrial présent
bravo.
Dans...
C'est bravo,
un... On a un extra ici pour un mot
difficile. Oui, très difficile. Je pense qu'on va vous garder.
C'est un seul test.
Oh, merci, j'ai passé.
Oui.
Donc, présent en plus grande quantité et transmis par la lignée maternelle, cet ADN porte séquences courtes, bien conservées, qui peuvent être comparées avec les milliers de séquences d'animaux déjà enregistrées dans des bases de données spécialisées. Las, sur les 37 échantillons analysés, 7 n'ont pas livré d'ADN exploitable, tandis que les 30 autres appartenaient à des animaux aussi effrayants qu'une vache, un tapir, un hérisson. Aucune trace d'un primate inconnu.
Une vache?
Oui, une vache. Oui. Quel dommage.
Hein? Oui, oui, oui.
On est triste.
Oui.
Mais c'est mieux que le fibre de verre quand même.
Quand même. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Car il est apparu, Dixie, le généticien, que deux échantillons montraient une homologie à 100% avec l'ADN d'un fossile de plus de 40 000 ans.
Oh!
Ouais. Donc, l'ancêtre de l'ours polaire.
Oh. Ah.
Voilà.
Ouais.
Une partie de la réponse.
Pas un primate, mais un ours. Le premier d'un brun doré, provient d'un animal tué à Ladakh, Inde, il y a plus de 40 ans par un chasseur expérimenté qui a décrit la bête, dont la dépouille momifiée est conservée, cachée. Le second, d'un brun roux, a été découvert par un chasseur du roi du Bhoutan dans une forêt de bambou connue pour être un nid de Mijiur, dans le nom local du Yéti, donc le Mijiur. Resterait-il donc des espèces inconnues dans l'Himalaya? lesquelles ne seraient toutefois pas celles que l'on croyait. De là, envisager que le légendaire créature tiendrait que plus de l'ours que du singe géant? Oui, mais lequel? Un hybride d'ours polaire et d'ours local? Le membre d'une sous-espèce locale descend de l'ours polaire d'un ours inconnu disparu. Le suspense vient tout récemment de prendre fin. Là encore, grâce à la biologie moléculaire, car une équipe internationale a, cette fois, séquencé non pas des fragments d'ADN mitochondrial, mais la totalité des génomes des deux échantillons. Verdict, il s'agit de deux espèces d'ours bruns, bien connues des montagnes de l'Himalaya. Pour peu décevant, oui, qu'elle soit, telle est finalement l'origine du mythe, ce qui n'empêche nullement d'aimer Tintin au Tibet. Donc, un texte, cet article d'Emily Rocher, qui se cache derrière le Yeti.
Merci beaucoup. De rien. Ça fut une très belle première expérience, je trouve.
Merci.
Aujourd'hui, j'ai rencontré l'un de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi.
Marie-Pierre Arthur qui revisite un classique que j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Et c'était pas le Yeti.
Non, je ne pense pas.
Ah, d'accord.
Ce n'est pas dit dans les paroles, mais...
Ouais. Alors Marie, tu nous parles de technologie, de numératie technologique...
Et de génération. Oui, tout à fait. Alors le titre de l'article, c'est « Les différences générationnelles concernant l'utilisation pédagogique des technologies ». C'est un texte de Marc-Antoine Boudreau, publié sur le site RIRE, le site RIRE, le réseau d'information pour la réussite éducative, et ça a été publié le 19 juin. Lorsqu'on pense aux natifs du numérique, mettez des guillemets à natifs du numérique, on pense à des jeunes, toujours branchés, et hyper compétents en ce qui a trait à l'usage des technologies numériques. Mais le sont-ils plus que leurs prédécesseurs en matière de littératie numérique?
Alors, nous, on compte pas. Hein,
non, c'est ça, vous comptez pour du beurre. Pour éclaircir le débat sur les habiletés technologiques des générations C, X, Y et Z, Alexandre Garot, Bruno Paul-Hubert et
Paul-Hubert,
c'est P-O-E.
Je le connais bien.
Tu le connais?
Oui. Comment on prononce?
Poil-Hubert.
Ouais. Merci. Et Normand Roy ont conduit une vaste enquête en ligne auprès de 24 502 étudiants.
Bel échantillonnage.
Du collégial. Oui. On ne peut pas s'obstiner sur l'échantillonnage.
Non, c'est pas... un sondage régulier, c'est 2000.
Voilà. Alors, cette étude propose d'analyser les compétences technologiques de trois générations distinctes. Les immigrants du numérique. Alors, ceux qui sont natifs de 1979 et moins, ici, il y a trois personnes, quatre personnes autour de la table, ou presque. Les pré-natifs du numérique, c'est-à-dire de 1980 à 1989, et les natifs du numérique, ceux de 1990 et plus.
Dont moi.
Dont toi. Voilà. Construite de manière à pouvoir analyser les différences générationnelles en fonction de trois variables. Les trois variables sont la littératie et la compétence numérique, la deuxième étant les compétences informationnelles et la troisième variable étant l'utilité et le potentiel pédagogique des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle plus communément l'éthique. L'enquête a fait ressortir quelques faits saillants et voici les points que l'enquête de Garot, Poil-Hubert et Roy a mis en relief. D'abord, les différences intergénérationnelles sont subtiles et peu importantes.
Ça, c'est une révélation pour moi.
Malgré ce que nos enfants peuvent nous faire croire.
Voilà. Ensuite, les natifs du numérique, ça, si c'est, ça ne nous étonne pas, sont légèrement plus branchés que les pré-natifs. Ensuite, les natifs et les pré-natifs du numérique sont significativement plus branchés que les immigrants numériques que nous sommes. D'après cette enquête.
D'accord.
La proportion de technophiles et d'usagers moyens est plus élevée chez les natifs et les prénatifs du numérique. Les technophiles ont une meilleure perception de l'utilité pédagogique d'éthique. Les hommes semblent surestimer leurs compétences technologiques alors que les femmes les sous-estiment.
Je croirais.
Oui, hein? Les jeunes se perçoivent plus compétents en recherche d'informations que leurs aînés, et les jeunes utilisent plus Wikipédia comme moyen de recherche que les autres groupes. Leurs aînés s'appuient plus souvent sur les médias sociaux. Les auteurs de cette enquête en ligne partagent la même conclusion que la célèbre revue Nature, selon laquelle l'avantage marqué des natifs du numérique en littératie informationnelle numérique est un mythe. En effet, les individus de toutes les générations utilisent actuellement la technologie, par exemple au cours de leurs études, mais aucune de ces générations n'atteint son plein potentiel sur ce plan. L'étude souligne aussi la grande responsabilité des enseignants en ce qui concerne le développement de la littératie et des compétences numériques des élèves. Même la nouvelle génération d'enseignants natifs du numérique devra faire de grands efforts pour développer le plein potentiel pédagogique d'éthique et les utiliser pour l'alphabétisation numérique des élèves, puisqu'ils ont eux-mêmes été formés dans un paradigme traditionnel. Si la nouvelle génération est vraiment plus autonome dans son apprentissage avec la technologie, les institutions auront nécessairement le mandat de s'ajuster à cette réalité, le savoir n'est plus seulement l'apanage du professeur et de la classe. Et ça, pour les enseignants, c'est parfois une menace, mais ça devrait être un net avantage. Alors voilà, c'était un texte de Marc-Antoine Boudreau, publié sur le site Rire, le 19 juin.
Tone. Alors, on a un petit peu de temps, Aïcha. Pourrais-tu nous dire quelle place occupe le bénévolat dans ta vie?
Très belle question. Ça occupe une très, très grande place dans ma vie. J'en fais depuis que j'ai 10 ans.
Ah oui?
Ouais. La première fois que j'ai commencé à faire
ça. Ça fait pas très longtemps, d'abord.
Ça fait un bon 13 ans.
Voilà.
Ça fait très longtemps pour moi.
C'est une façon détournée de demander son âge, ça, Yvan?
Non, c'était pas le but.
C'était pas détourné du tout, en tout cas.
Non, ça fait très, très longtemps que j'ai commencé à faire du bénévolat. J'en fais au moins, j'investis par année au moins un bon 100 heures.
Ah oui? Et dans quel secteur?
Non, pas mal tout. J'essaye de tout, de tout. Je suis pas limitée. Le secteur que j'aime le plus, c'est le sport.
Ah, d'accord.
Ouais, j'aime vraiment m'investir dans le sport. Je fais des ateliers avec les jeunes filles surtout, entre 13 à 15 ans.
Tu les fais bouger, alors?
Oui, des fois, on parle de self-esteem, donc l'estime de soi. On parle de la communication, le travail d'équipe. Mm-hmm. Pas mal ça.
Ah,
dans le domaine du basket ou...
Basket, soccer, football, un peu tout.
Oh,
donc, tu pratiques les sports avec elles et... En même temps, tu leur parles de tous ces concepts.
Je pratiquais avant plusieurs blessures.
Ah, d'accord.
Oui, okay. Mais maintenant, non, je ne pratique plus. Je fais juste les assister, les donner des ateliers, les motiver.
Ah, d'accord.
Et les encourager surtout.
Okay. Quand tu as commencé ton bénévolat à l'âge de 10 ans, est-ce que ça faisait partie d'une demande de l'école?
Non, pas du tout. J'ai pris ça, c'était un choix personnel. J'étais assistante coach bénévole.
OK.
Ouais. J'assistais un coach qui avait 18 ans, ouais. Okay. Fait que j'avais pris ça par... choix personnel.
D'accord.
Mmh. Ouais.
Ah, ben c'est super intéressant, Aïcha. Mmh. En tout cas, tu es bienvenue comme bénévole avec nous.
Ben oui.
C'est tout à fait extraordinaire ce que tu fais.
Ah, merci.
Alors, on connaît Wikipédia, mais connaissez-vous Wikidia? C'est l'encyclopédie des 8-13 ans que chacun peut améliorer. Donc, une encyclopédie junior en français, en wiki, pour des lecteurs âgés de 8 à 13 ans et tous ceux qui veulent une présentation simple d'un sujet. On peut aller consulter, puis on peut aller alimenter Wikidia. Alors, c'est wikidia.org sur le web. C'est super intéressant pour les enfants.
Alors, chers amis, chers auditeurs, le leadership, le témoignage d'un enseignant et... Les bienfaits de la boxe vous intéressent, vous restez avec nous. Alors, après la pause et la chanson, nous serons de retour. Et bon café.
À tantôt.
À tantôt.
don't depend on you, honey, but you still can lead me on.
Peut-être reconnu, c'est Elisapi qui nous chantait « Lead me on ».
Alors, c'est à mon tour?
Bien sûr.
Oui. Tu fais plus qu'animer aujourd'hui.
Alors, sous la plume de Martin Lassalle, pour la revue des diplômés, cette fois-ci, de l'Université de Montréal, en date du 7 mai dernier, un article qui s'intitule « Leadership. Que dit la recherche? » Parce que tout le monde s'intéresse au leadership, on le sait. Alors, en effet, le concept de leadership suscite la réflexion et inspire des théories depuis des siècles. Alors, il y a plus de 2300 ans déjà, j'aime ça, hein, vous ramener dans
à la
le
base.
Temps. Alors, Aristote,
oui,
on le connaît un petit peu quand même.
Oui, ben, il n'a pas participé à une émission de radio aussi.
Exprimait l'idée de juste milieu dans son Éthique de Nicomaque. Une forme de prudence à l'égard de celui qui soulève les foules, une juste balance entre ce qui est possible et comment on est capable de le faire, un leadership intelligent sans trop d'idéalisme.
C'est-tu drôle, j'ai plein de noms dans la tête, président.
Ah oui, toutefois, c'est depuis quelques décennies seulement que le leadership fait l'objet de recherches scientifiques plus poussées, et ce, dans différentes disciplines. Que ce soit en sciences politiques, en relations industrielles, on l'imagine bien, ou en psychologie des organisations, la définition générale du leadership repose à quelques différences près sur le même précepte, soit l'art ou la capacité d'influencer les autres de façon qu'ils entreprennent des actions ou effectuent des tâches avec motivation, et sans contraindre pour atteindre un but ou des objectifs communs. Alors, le leadership est d'abord et avant tout un phénomène relationnel et communicationnel qui s'appuie en grande partie sur la rhétorique. Il n'y a pas de leader s'il n'y a personne autour et s'il n'y a pas d'interaction entre tous. Mm-hmm. Une vérité de la
palisse. Oui, la palisse.
La palisse. Et cette relation entre le leader, ses collaborateurs, ses proches et la population s'exerce différemment selon les époques, les cultures et les valeurs. On accorde souvent beaucoup d'attributs au leader, mais on devrait se soucier un peu plus de ce qui caractérise les situations de leadership. N'empêche qu'il soit tribun flamboyant, ou gestionnaires dans une entreprise, les leaders ont quelques traits communs. En commun, ils doivent être dignes de confiance, authentiques, expérimentés et compétents, savoir bien se présenter et s'exprimer, et montrer leur capacité à prendre des décisions. Mm-hmm. Il y en a un au sud qui ne sait pas trop comment les prendre.
Oh, la partie éditoriale ici.
Oh, pas là, excusez. La résistance au stress, l'extraversion et le charisme sont d'autres traits qui prédisposent au leadership, aussi liés à la capacité de s'adapter et de reconnaître ce qu'une situation commande. Cela dit, il n'existe pas de leader idéal qui plaît à tous, on s'en doute. D'ailleurs, depuis des années, on essaie de trouver le moule parfait et l'on propose toutes sortes de recettes pour fabriquer de bons leaders. Mais la pierre philosophale, on ne l'a pas encore découverte. Selon les observations de Luc Brunet, qui est professeur au département de psychologie de l'UdeM, on peut lire des centaines d'articles qui traitent de leadership sur Internet, mais pas plus de 30% sont de nature scientifique. Le reste, c'est de la psychopop qui peut avoir parfois des effets dévastateurs. Car le leadership peut se révéler très néfaste pour les subordonnés. De nombreuses études sur le harcèlement psychologique ont démontré qu'un patron souffrant d'un trouble de la personnalité s'avère destructeur pour ses employés, précise M. Brunet. Il y a de 6 à 9 % de personnes dans la population qui éprouvent des problèmes d'adaptation. Et c'est vrai également au bureau. Les risques sont plus grands de retrouver des psychopathes fonctionnels au travail qu'en milieu psychiatrique.
Ici aussi, moi, j'ai des images.
Ça doit être la même image.
Luc Brunet en a aussi contre certaines formations offertes aux cadres qui, par exemple, prétendent transformer en une semaine un gestionnaire directif autocratique, en un patron collaboratif. Les gens ne changent pas si facilement, de surcroît en si peu de temps, s'exclame le professeur honoraire. D'autant plus que n'importe qui peut se déclarer consultant en management et donner toutes sortes de formations hétéroclites qui n'ont jamais été scientifiquement validées, comme les approches reposant sur les personnages de Tintin, décidément, on en parle aujourd'hui, encore la rigolothérapie. En politique, le leadership, c'est important, n'est-ce pas? Alors, quelle est la perception...
Je pensais que c'était absent présentement.
Quelle est la perception qu'on a des chefs de parti? Après, et en sous-question, le contenu médiatique teinterait-il l'opinion des électeurs à leur endroit? On a surtout observé à quel point les citoyens ont une perception négative des chefs de parti et des politiciens en général. Ainsi, on exige de nos leaders qu'ils lavent plus blanc que blanc, et c'est encore plus vrai pour les femmes. Être chef d'un parti implique d'être en équilibre sur un fil, d'atteindre le consensus tout en maintenant certaines positions moins populaires. Et puisque l'image qu'on se fait d'eux se forge surtout à travers les médias, ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans la construction de nos perceptions, et qui sont en l'occurrence plutôt négatives. Un autre secteur intéressant, l'Église. Alors, qu'en est-il de l'Église et du leadership?
Oui, qu'en est-il?
Alors, en mars 2013, la revue The Economist publiait un article sur les facteurs clés de succès de la transformation de la plus ancienne multinationale de l'histoire, l'Église catholique romaine. De quelle façon le pape François tranche-t-il sur ses prédécesseurs dans la gestion de l'Église? Alors, il a graduellement compris qu'il devait agir par consensus et par régime de conseil. Sa popularité tient aussi à la cohérence du message qu'il véhicule et des comportements qu'il adopte. En toute simplicité, il a par exemple choisi de demeurer dans la résidence Sainte-Marthe plutôt que d'occuper l'appartement pontifical et de porter des chaussures de course plutôt que les chaussures Prada rouges. Enfin, son charisme contribue grandement à la transformation qu'il préside. Il inspire d'ailleurs bien des églises, comme tout bon nombre de leaders dans le monde. Et je pourrais continuer en politique internationale, mais je m'arrêterai là. C'était donc un article de Martin Lassalle pour la Revue des diplômés de l'Université de Montréal du 7 mai 2018. Alors, Marie, un magnifique témoignage.
Un magnifique témoignage. Le titre, Hommage aux jeunes allumés d'aujourd'hui, c'est un texte de Patrice Bégin, enseignant de français et de littérature à l'école secondaire Henri Bourassa, qui est à Montréal-Nord, publié dans Le Devoir le 18 juin de cette semaine. On demande souvent pourquoi j'ai choisi l'enseignement, alors que plusieurs autres possibilités s'offraient à moi. Chaque fois qu'on me pose cette question, je ferme les yeux, et là, je vois des visages et des sourires. Je revois tout cela, et là, je sais. Je sais pourquoi je fais ce travail, je sais pourquoi je le ferai probablement toujours. Pour vivre des sensations fortes, certains font du parachute. Moi, J'enseigne le français et la littérature à une centaine d'adolescents dans une école publique de Montréal-Nord. Et tout se passe bien. Au niveau de ma carrière, j'ai dû enseigner à près de 3000 jeunes de tous les niveaux, de presque tous les milieux. J'enseigne au secondaire, mais j'ai aussi donné quelques charges de cours au cégep. J'ai travaillé au privé et au public. J'ai enseigné dans des milieux très aisés, alors que l'école où je travaille maintenant a un indice de défavorisation de 10 sur 10. J'ai commencé ma carrière en enseignant à des élèves en grande difficulté, alors que maintenant, j'enseigne à des élèves du programme d'éducation internationale. Ces expériences semblent très différentes, mais elles ont pourtant toutes un point en commun, les élèves. Aujourd'hui, j'aimerais leur rendre hommage et leur témoigner toute ma gratitude, toute mon affection. Je commencerai en disant que, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, il y a beaucoup de bons jeunes. Des jeunes intéressés, intéressants, curieux et ouverts. Des jeunes engagés, soucieux de leur bien-être et de celui des autres. Des jeunes préoccupés par leur réussite et désireux de contribuer à l'amélioration de leur collectivité. On en a une ici, en fait.
Oui, effectivement.
Des jeunes avec cette lumière qui brille dans les yeux. Cette lumière qui traduit leur soif d'apprendre, de grandir, de prendre leur place, leur soif de vivre. Enseigner, c'est se jeter dans le vide. Vous savez, c'est angoissant une rentrée scolaire. L'excitation, la nervosité que l'on ressent quand on entre en classe pour la première fois et que l'on voit tous ces regards dirigés vers nous. Le silence qui se fait entendre quand la cloche sonne pour la première fois. Et là, il faut briser la glace. Gagner leur confiance, établir sa crédibilité, créer des liens, développer une complicité. Et c'est là que le voyage commence. Certains se demandent peut-être ce que c'est un bon élève ou un bon groupe. Pour ma part, cela n'a rien à voir, ou si peu, avec les résultats scolaires. Moi, je suis dans l'enseignement pour le côté humain, et j'aime bien l'humanité des jeunes. J'aime leur naïveté et leur candeur. J'aime aussi leur côté rebelle, leur remise en question, leur changement d'humeur. J'aime les aider à trouver qui ils sont. Vous savez, quand on leur propose quelque chose de stimulant et quand on leur fait confiance, les jeunes nous déçoivent rarement. J'ai vécu des moments mémorables auprès de mes élèves. Ensemble, on a organisé des joutes oratoires. On est allé en Grèce et à New York ensemble. On a passé des soirées au théâtre ensemble. On a dîné ensemble et cette année, on est allé à l'opéra ensemble. Parfois, je crois que ma femme aimerait aller étudier dans ma classe afin qu'on fasse plus de choses ensemble. Ensemble, on a réalisé plus d'une vingtaine de capsules web d'info HB. HB pour Henri Bourassa.
Oui, oui.
Ensemble, on a monté près d'une quinzaine de galas d'excellence. Et là, vous devriez les voir, ces jeunes animateurs, du haut de leurs 14 ou 17 ans, affronter un auditoire de 500 personnes. Vous devriez voir leur fierté, leur tristesse aussi, lorsque les rideaux se ferment à la fin de la soirée et qu'ils réalisent ce qu'ils ont accompli. Ces jeunes n'ont peur de rien. Pour eux, tout est possible. Ils ne se mettent pas les barrières que l'on s'impose parfois en tant qu'adulte. Je me souviens du temps où j'enseignais le journalisme. Je demandais à mes élèves de trouver une personne qui avait des choses à raconter et de réaliser une entrevue avec elle. Et là, en toute naïveté, certains me disaient qu'ils voulaient faire une entrevue avec Pauline Marois, Jean Charest ou encore José Théodore, ancien gardien de but des Canadiens de Montréal. J'étouffais alors un fou rire, mais je me disais qu'il ne fallait pas assassiner Mozart. Eh bien, vous savez quoi? Ils les ont réalisées, ces entrevues.
C'est magnifique.
Ça a été pour moi une expérience formidable ainsi qu'une belle leçon d'humilité. Aujourd'hui, laissez-moi remercier tous ces jeunes que j'ai croisés dans une classe, sur une scène, dans un corridor ou sur un terrain de football. J'aimerais leur dire qu'ils ont su faire de moi un meilleur enseignant et une meilleure personne. Merci pour tous vos sourires. Merci pour les détours que vous faites pour venir me dire bonjour ou pour me parler entre deux cours.
Il y a un petit peu d'émotion aussi. Je ne sais pas si je vais être capable de finir. Merci d'embarquer dans mon univers et d'accepter ce que je vous propose. Merci d'être exigeant envers moi. Merci de me remettre en question. Merci de me proposer des romans, de me faire partager. J'avais pratiqué sans pleurer. Merci de me remettre en question. Merci de me proposer des romans, de me faire partager vos rêves,
vos peurs et vos soucis. Merci pour vos marques d'affection et vos sourires complices. Merci de faire en sorte que j'aime encore passionnément ce que je fais. Je me souviens du jour où, lors d'une entrevue pour un poste d'enseignant, on m'a posé la question. Pourquoi l'enseignement? Je me souviens avoir répondu en toute modestie que j'étais dans l'enseignement parce que je croyais que je pouvais faire une différence dans la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, après avoir été en contact avec tous ces jeunes, j'ai aussi compris que j'étais dans l'enseignement parce qu'il faisait une différence dans la mienne. En terminant, chers élèves, je lève mon verre aux bons souvenirs. Et M. Bégin, on le connaît parce qu'il a enseigné à nos deux garçons. Alors, je lève mon verre. Malgré les années qui passent, malgré la cinquantaine qui frappe à ma porte, vous me permettez de rester jeune. Vivez, rêvez, soyez des libres penseurs, soyez vous-même, soyez heureux là où vous êtes maintenant. Voilà. Merci.
Wow.
Merci beaucoup, Marie. Alors, on passe dans un autre univers, mais inspirant quand même.
Oui, très inspirant quand
même.
Alors,
Yvan, vas-y.
Aïcha, ça va te dire quelque chose, parce que c'est des éléments aussi auxquels tu as fait référence dans nos conversations avant l'émission. Alors, c'est un article, c'est la chronique Actif au quotidien, où on regarde le cheminement de quelqu'un qui fait de l'activité physique régulièrement, puis on se demande comment la personne s'y prend. Ça s'appelle « Boxer pour le corps et l'esprit ». C'est sous la plume d'Evelyne Audet dans la presse du 20 juin, donc d'hier. Et je vous parle de Sylvie Turgeon, 57 ans, retraitée, j'imagine toute nouvelle retraitée probablement, ancienne avocate, en couple depuis 25 ans, mère d'une fille de 22 ans, et elle pratique la boxe presque tous les jours. Puis c'est un article que je trouvais intéressant parce que sur certains aspects, je suis d'accord avec ce qu'elle fait. Mm-hmm. Puis sur d'autres, un petit peu moins. Je vais vous laisser juger.
Oui.
Sylvie Turgeon a toujours été sportive. Dans le passé, elle a pratiqué plusieurs sports, dont la natation, le ski, le tennis et le karaté. Plus récemment, elle s'est inscrite dans un gym. Et après avoir essayé quelques disciplines, elle a découvert la boxe, qui est instantanément devenue sa passion. Elle en fait maintenant presque tous les jours. Comment s'est déroulée votre première expérience avec la boxe et pourquoi avez-vous si vite adhéré à ce sport? Il y a quelques années, quand je me suis inscrite dans un gym, j'ai essayé plusieurs activités qui étaient proposées comme le Zumba et le spinning, mais je n'ai pas aimé ça. Il y avait aussi un studio de boxe à cet endroit. Alors j'ai fait un essai et je suis tout de suite tombée en amour. J'aime ça parce que c'est intense, mais surtout parce que c'est un vrai sport. Pour moi, faire des machines au gym, c'est de l'entraînement. Mais ce n'est pas un sport. Aussi, l'entraînement de boxe procure une très grande dépense énergétique. Pour moi, il n'y a rien de comparable. C'est pour ça que j'ai vite accroché. En quoi consistent vos séances de boxe? On fait du conditionnement physique, mais en plus, on monte dans le ring. On fait de la mitaine et on simule des combats. On fait de la mitaine, il y a un entraîneur qui a vraiment une mitaine, puis on frappe dans la mitaine.
Merci.
Okay. On apprend les déplacements et différentes combinaisons. On apprend vraiment à faire de la boxe, même si on ne fera jamais de vrais combats. J'aime autant le conditionnement physique que la technique, et quand on commence à être habitué, on peut faire les deux en même temps. Par exemple, avec le partenaire avec qui je m'entraîne depuis 6 ans, on roule maintenant très vite. Alors, même si on est en train de faire de la technique, on dépense beaucoup d'énergie. On peut très bien combiner la technique et le cardio. À quoi ressemble votre routine hebdomadaire d'entraînement? Écoutez bien ça.
Nous sommes tout ouïes.
Oui, je fais de la boxe presque tous les jours. J'en fais 2 fois le lundi et 1 fois les mardis, mercredis et jeudi. Le vendredi, je fais un cours de musculation de 55 ans et plus. Je ne savais pas qu'il y avait des cours de musculation de 55 ans et plus. Et j'avoue que j'augmente un peu les charges par rapport à ce qui est demandé. Le samedi, je retourne à la boxe. Et le dimanche, c'est la journée où je fais une activité de plein air. Chez nous, le sport, c'est au quotidien. Quand je ne fais rien, mon corps n'est pas bien, c'est aussi simple que ça. Si je saute une journée, ce n'est pas si pire. Mais deux jours, je commence à grimper dans les rideaux. Même quand on part en voyage, je continue. S'il y a un gym à l'hôtel ou sur le bateau, je vais y aller. Sinon, je fais les activités et les excursions disponibles et on choisit toujours celles qui sont les plus actives. Quelle est la réaction des gens qui vous voient boxer étant une femme de 57 ans? C'est là que je fais le lien avec Aïcha, qui n'a pas 57 ans, là, mais... C'est certain qu'il faut prouver qu'on a notre place au début, mais si on s'impose un peu et qu'on se donne le temps de l'apprendre, on peut y parvenir. C'est ce que j'ai fait et maintenant les gens sont habitués de me voir. Il y a des hommes qui viennent me dire des choses comme « Vous, je ne m'obstinerai pas trop avec vous » ou « Merci, vous êtes une inspiration ». Je ne pense pas à ça en faisant mon sport, mais quand je reçois ces compliments-là, ça me fait vraiment plaisir. J'aime me rappeler aussi que quand j'étais jeune, ce n'était pas possible pour nous, les filles, d'aller faire de la boxe comme ça. C'est un sport de macho et anciennement, les filles n'avaient même pas le droit d'entrer dans les gyms. Mm-hmm. Mais maintenant, oui. Alors profitons-en, il faut y aller. Et je vais vous dire une chose. Je trouve que les femmes ont une meilleure coordination que les hommes. On apprend plus vite, je m'en aperçois. On a moins de force, mais plus de coordination. Alors il ne faut pas se sous-estimer. Les clubs de boxe poussent maintenant comme des champignons et il y a même des groupes pour femmes uniquement. Alors moi, je dirais d'oser y aller et de ne pas se gêner. Qu'est-ce que la boxe vous apporte finalement? Le sport en général m'apporte la confiance et l'estime de moi. Mm-hmm. Quand on arrive dans la cinquantaine, l'estime de soi diminue un peu. On est moins actif qu'à 30 ou 40 ans. La boxe m'a permis de retrouver cette estime de moi. J'aime le fait que ce soit un sport de combat. J'aime la coordination, mais aussi le fait que ça prenne du caractère et que ça permette de s'imposer. Ça fait ressortir le guerrier en nous. En plus, il y a plusieurs bienfaits physiques. Alors, avant, je portais du 8 à 10 ans. Maintenant, je porte du 4 ans. Faire du sport, ça change aussi l'alimentation. On mange mieux automatiquement. Et j'ajouterai que notre cerveau travaille aussi à travers tout ça. En boxe, on décortique parfois les combinaisons, alors ça fait travailler la coordination, mais aussi le cerveau. Quand on va courir, par exemple, on pense à ce qu'on veut, le cerveau part ailleurs, mais il ne travaille pas. En boxe, le cerveau doit être toujours présent. On n'a pas le choix, sinon on mange un coup. Peut-être qu'avec le temps, je vais vouloir faire autre chose, mais pour l'instant, ça me comble entièrement. Alors je vous ai présenté Sylvie Turgeon, 57 ans, retraitée, qui pratique la boxe, sous la plume d'Evelyne Audette dans la presse du 20 juin.
Merci, Yvan. Alors, on va profiter de la présence d'Aïcha avec nous. Dis-moi, Aïcha, c'est votre organisation qui vous a suggéré Vues et Voix. Quel est leur engagement par rapport au bénévolat à cette...
Donc, la réponse à la première question, oui, c'est l'organisation qui m'a conseillé de venir à Vues et Voix. Et il y a une place, l'organisation a une place, donne une place, bon, le français, donne une place énorme au bénévolat. Comme je vous expliquais plus tôt, c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation. C'est vraiment quelque chose qui c'est quotidien. À tous les jours, on reçoit des emails sur qu'est-ce que vous aimeriez faire. Wow. Il y a des nouveaux bénévolats, etc., etc. Donc, il y a une grosse place dans l'organisation. Oui.
Et l'expérience d'aujourd'hui?
Adorée. Wow. Ah, oui. Au début, j'étais très stressée, mais là...
Oui, oui, ça va.
Ouais, ça va très, très mieux.
Bon, ben, on prend note de ça.
Oui, merci à vous.
Alors, Yvan, une brève.
Une brève de vélo. Pour la première fois, les Pays-Bas connaissent plus de décès de cyclistes que d'automobilistes.
Ben oui, c'est parce qu'ils sont majoritaires.
206 contre 201 décès de l'année dernière. Des automobiles plus sûres d'un côté et de l'autre, le téléphone au guidon, la croissance du vélo électrique et les cyclistes vieillissants ont fait pencher la balance du mauvais bord pour les amateurs de vélo.
Voilà. Marie, est-ce qu'on a un petit mot d'enfant?
Oui, alors escargot, selon Camille, qui a 2 ans, c'est une limace qui a un sac à dos pour dormir dedans ou pour s'y cacher.
Hopala!
J'aime bien ça.
Alors moi, je vais vous dire, est-ce qu'on a raison de se gratter après une piqûre de moustique? puisque l'été est là.
Ah, je ne sais pas si on a raison, mais on a vraiment le goût.
Je ne me pose pas la question.
Alors, on a l'impression que la douleur provoquée par le grattement est salvatrice. Mais en fait, la moustique nous injecte une matière et ça, en fait, quand on se gratte, on ne fait que
la propager.
Et donc, non, ne vous grattez pas. Ce n'est pas bon du tout.
Est-ce qu'on peut gratter quelqu'un d'autre?
Je ne penserais pas. Mais en tout cas, si vous allez en forêt, respectez les sentiers.
Habillez-vous en long.
En long, etc. Alors, chers amis, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui, Marie et Yvan. Merci à Aïcha d'avoir été là. Merci à Mathieu. À vraiment, une très bonne émission. En tout cas, on a eu du plaisir. Et puis, on vous invite à être là la semaine prochaine. Oui. Et puis, peut-être poursuivez avec Hélène Denis qui vous parle des quotidiens.
Et bonne Saint-Jean.
Et bonne Saint-Jean, merci. Allez, au revoir.